Sandra Viscardi.
Ce vendredi, une journée vraisemblablement décisive pour les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Selon les bruits de couloir, le Conseil fédéral devrait évoquer aujourd'hui en conférence de presse le résultat des négociations avec Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle serait même attendue en Suisse ce week-end pour signer l'accord. Alors Romain Carupt, en présence de quels conseillers fédéraux ?
C'est la grande question qui taraude les partisans d'un nouvel accord avec l'UE. En toute logique, Viola Merz sera de la partie en tant que présidente de la Confédération, mais la présence d'autres conseillers fédéraux devant les caméras serait un signal plus fort, il montrerait l'unité du collège. Ignacio Cassis, le ministre des Affaires étrangères, a opté pour un silence stratégique pendant les négociations. Va-t-il enfin parler ? Les partisans l'espèrent. Tout comme ils voudraient que l'europhile socialiste Beat Jans s'exprime, histoire qu'à gauche, le champ ne soit pas laissé libre au chef de file des syndicats Pierre-Yves Maillard, lui qui ne rate jamais une occasion de brandir la menace du référendum si l'accord devait prétériter les travailleurs.
Et sur ce point, est-ce qu'on sera fixé aujourd'hui ? Est-ce qu'on aura les détails de la protection des salaires et des autres points sensibles ?
Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça n'est pas sûr. Encore récemment, le Conseil fédéral envisageait de ne pas donner trop de détails à ce stade. Une conférence de presse pour poser le contexte, plus que pour répondre aux grandes questions débattues depuis des mois. Un peu court, ont fustigé en coulisses l'économie et les partenaires sociaux, si bien que le Conseil fédéral pourrait finalement venir avec 12 fiches descriptives aujourd'hui. Mais c'est du conditionnel, comme vous l'aurez compris, à peu près tout dans ce long dossier de la politique suisse.
Autre document très attendu, le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le naufrage de Crédit Suisse. Il sera publié dans la matinée. L'enquête instituée par le Parlement en juin dernier couvre la période de 2015 à mars 2023, date de la reprise de Crédit Suisse par UBS. Avec au centre ces questions, Katia Scher, à qui la faute ? Quels sont les manquements responsables de la chute du numéro 2 bancaire suisse ?
Certains risquent d'en prendre pour leur grade, comme la FINMA, le gendarme boursier et sa directrice Marlène Amstadt. Il s'agit de déterminer si la FINMA, en tant qu'autorité de surveillance des banques, n'a pas été un peu laxiste dans cette affaire. Et il y a la question du timing aussi, est-ce qu'il n'aurait pas fallu intervenir plus tôt ? Mais la FINMA n'est pas seule visée, la communication ou le possible manque de communication entre le gendarme boursier, la Banque nationale suisse et le département fédéral des finances sera aussi décortiqué dans ce rapport. Or, la conseillère fédérale Karine Keller-Souter est vue comme l'architecte du sauvetage de Crédit Suisse par UBS, mais les discussions tenues par son prédécesseur, Ulli Maurer, avec Crédit Suisse seront analysées, le tout dans le but de s'interroger sur les outils à mettre en place pour éviter qu'un tel naufrage ne se répète.
De fortes explosions ont retenti à Kiev ce matin après une série d'alertes aériennes aux missiles balistiques tirés depuis la Russie vers le territoire ukrainien. Le maire Vitali Klitschko annonce 2 blessés au moins, des bombardements russes aussi sur Kherson où il y aurait un mort et 6 blessés. La peine maximale, 20 ans de prison donc pour le mari qui droguait sa femme pour la violer et pour la faire violer par d'autres hommes. Des peines moins lourdes que le réquisitoire du procureur contre eux. Le verdict du procès des viols de Mazan est tombé hier. Un jugement qui fait de la victime Gisèle Pelicot une icône des féministes comme Laurine, rencontrée devant le tribunal d'Avignon par notre envoyé spécial Benjamin Louis.
Quand j'en parle autour de moi, beaucoup me disent 20 ans c'est pas beaucoup et c'est vrai. Au final, pour tout ce qu'a vécu Gisèle ainsi que sa fille, puisque je rappelle qu'on ne sait toujours pas ce qu'elle a vraiment vécu de la part de son père. J'espère que dans 10 ans, on sera plus là à manifester pour ce genre d'événement et que les peines seront exemplaires et que on prendra en compte la parole des victimes. Et donc ma pancarte parle aussi des plaintes pour violences conjugales qui sont classées sans suite. Aujourd'hui, on en a encore énormément et c'est bien dommage de ne pas écouter. De pas toujours écouter la parole des victimes et de les accompagner derrière. J'espère que ça ira dans le bon sens et qu'il y aura effectivement un avant-après.
La France qui pourrait connaître la composition de son prochain gouvernement ce week-end. C'est en tout cas l'objectif que s'est fixé le nouveau Premier ministre François Bayrou. Et la France qui sera en deuil national lundi en mémoire des victimes du cyclone Chido à Mayotte samedi dernier. Promesse faite sur l'île de l'océan Indien par Emmanuel Macron. Le président français vient d'y passer la nuit et il visite aujourd'hui des bidonvilles ravagées par la tempête. Après le canton, c'est la ville de Genève qui se fait rappeler à l'ordre par la Cour des comptes. Et une fois n'est pas coutume, c'est le cahier des charges des collaborateurs personnels des membres de l'exécutif de la ville qui est pointé par l'organe d'audit. Selon lui, Tania Zaspinard, il participe à des activités privées ou politiques de leurs magistrats et c'est contraire aux bonnes pratiques.
Un état de fait que reconnaît la ville de Genève et elle assume en rappelant que la fonction de collaboratrice ou collaborateur a été créée en 2007 pour, je cite, « éviter que des fonctionnaires de la ville ne se retrouvent en situation de devoir assumer des tâches de nature politique au sens large ». Comprenez par exemple faire le lien avec les partis politiques ou les élus. Alors, où placer la frontière entre travail institutionnel et engagement politique ? La Cour des comptes recommande de clarifier le cadre d'action des collaborateurs personnels. L'exécutif de la ville se dit quant à lui ouvert à un dialogue constructif. Reste que même si elle prend acte, la ville souligne la manière de faire et le calendrier de la Cour des comptes, comme si, je cite, elle voulait jeter le discrédit sur la classe politique à 3 mois des élections municipales. Des critiques dans le même ton que celles tenues récemment par le canton. C'était en début de semaine, après s'être fait épingler dans le cadre d'un autre audit.
Le ciel sera souvent nuageux aujourd'hui, les derniers flocons en montagne, des éclaircies sur le plateau et en Valais, 4 degrés au plus. Demain, nuageux au nord, soleil en Valais, 5 degrés au maximum. Retour de l'hiver dimanche.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Du 14 au 20 décembre, la RTS et la chaîne du bonheur se mobilisent contre les violences faites aux enfants, en Suisse et dans le monde, avec l'opération Cœur à Cœur. Une campagne de dons dans plus de 7 villes romandes, des dizaines de bénévoles pour une action unique, 70 heures de direct sur les antennes de la RTS. Rejoignez-nous près de chez vous et sur toutes nos plateformes. Parce que face à la maltraitance infantile, donner est un jeu d'enfant. Faites un don sur coeur.rts.ch.
Musique Matin, Yves Bron.
Une nouveauté avec le dernier disque enregistré donc récemment par la Tonhalle de Zurich sous la direction de Franz Strobel et une musique qu'on doit à Christopher Young, compositeur américain qui a écrit une partition sur le célébrissime film Nosferatu de Murnau. Je pense pas que c'est le seul, j'ai la pochette sous les yeux, elle est assez effrayante, Symphony of Horror pour orgue et orchestre. C'est Franz Strobel qu'on écoute donc ici avec la Tonhalle de Zurich dans cette ouverture de cette musique signée Christopher Young.
Thank you.
Voilà une musique récente pour un film ancien. Le film, c'est le Nosferatu de Murnau et la musique, eh bien, c'est cette Symphony of Horror dont on vient d'écouter le premier épisode, Les Fleurs Mortes, musique signée Christopher Young et interprétée, enregistrée donc récemment par l'orchestre de la Tonhalle de Zurich sous la direction de Frank Strobel. C'est un disque Warner. Nouveauté, mais de l'année 2024, comme je le fais depuis le début de ce mois de décembre, je vous propose qu'on réécoute un extrait d'un disque qu'a fait paraître Brad Mehldau, le pianiste de jazz, mais qui est crossover, comme on dit dans ce disque-là, après Forêt. Il y a déjà eu deux disques après Bach où Brad Mehldau donc interprète des musiques du compositeur et puis propose des variations ou des inspirations. On écoute ici un caprice donc de ce disque après Forêt. C'est Brad Mehldau qui est au piano. Caprice, une musique de Brad Mehldau, inspirée donc de Gabriel Fauré, extrait de ce disque Après Forêt qui était paru en début de cette année 2024 chez Nonesuch Records. Une nouveauté alors toute récente, cette fois-ci on retrouve ce beau duo trompette-piano, Romain Leleu, Julien Gernet, qui viennent d'enregistrer un disque pour Harmonia Mundi. Ça s'appelle Folie Parisienne et les compositeurs convoqués sont nombreux. On écoute un extrait de Georges Enescu hier. Je vous propose aujourd'hui deux mouvements des trois préludes pour piano à l'origine, ici transcrite pour trompette et piano, une musique de Georges Gershwin. Thank you. la musique de Gershwin avec deux mouvements. Le premier était assez bluesy, le deuxième un peu moins. En fait, c'était les deux et troisième mouvements de ses préludes pour piano, transcrits pour trompette et piano. Un disque de Romain Leleux, donc il vient de paraître, Les Folies Parisiennes, chez Harmonia Mundi. Il est 8h23 sur RTS Espace 2 et dans Musique Matin, le matin d'un jour de fête. C'est pas moi qui le dis, c'est Claude Debussy. Thank you. Le public ravi de la chaise Dieu Festival parisien, c'était en 2012, ici pour ce matin d'un jour de fête. Troisième mouvement d'Iberia, suite pour orchestre de Claude Debussy, enregistré pour le label Actes Sud par l'ensemble Les Siècles, sous la direction de François-Xavier Roth. Un beau duo maintenant, avec probablement le pianiste accompagnateur le plus célèbre des 50 dernières années, on va dire, c'est Helmut Deutsch qui est au piano, Matthias Görne, baryton, Auf dem Wasser zu singen, un lied de Franz Schubert. Pas loin de la perfection ici dans ce lied de Schubert, le baryton Matthias Görne et le pianiste Helmut Deutsch. Musique maintenant du compositeur autrichien Franz Schrecker qui a vécu à cheval entre les 19e et 20e siècles et qui a composé notamment ce scherzo, une sorte de galop donc avec Christoph Eschenbach qu'on écoute avec l'orchestre, le Concerthaus Orchestre de Berlin. Thank you.
Thank you.
Scherzo de Franz Schrecker, enregistré ici en 2021 par Christoph Eschenbach à la tête du Konzerthaus Orchester de Berlin. Dans quelques minutes, Yvor Malherbe pour une chronique et un livre sur le jazz qui vient de paraître. Pourquoi pas offrir à Noël? On va en parler, on va écouter évidemment des extraits. Mais avant, eh bien, le plaisir de retrouver le piano d'un grand interprète qui nous a quittés en début de cette année. C'était au mois de mars, Maurizio Pollini avec le Wiener Philharmoniker dans le troisième mouvement du 21e concerto de Mozart.
Thank you.
au public ravi du Musikverein de Vienne en 2005, ici magnifique Maurizio Pollini au piano, mais également à la tête du Philharmonique de Vienne dans ce troisième mouvement, célèbre mouvement du 21e concerto en ut majeur de Mozart, un disque Deutsche Grammophon. Il est 8h46, 47 minutes bientôt sur Espace 2. Bonjour Ivor Malherbe.
Bonjour.
Alors attendez, une petite seconde, on va la refaire. 8h et cabas maintenant, il est 8h47 minutes. Bonjour Ivor Malherbe.
Et voilà, bonjour.
Toutes mes excuses, j'avais pas allumé votre micro. Donc Ivor, on se revoit aujourd'hui, on s'est vu hier. Aujourd'hui, vous nous apportez un livre qui est signé Noël. Ça tombe bien, Noël Ballant.
Oui.
L'Odyssée du jazz qui paraît aux presses universitaires de France. Et en fait, c'est pas une, voilà, c'est pas une première édition, c'est une réédition. Augmenté, Ivor.
Mais oui, qui nous fait arriver en 2024 dans l'histoire du jazz quand même, puisque la première édition date de 1993, figurez-vous. Le livre a régulièrement été mis à jour, on en est à la 9e édition, c'est vous dire s'il a eu du succès.
Un livre à succès qui n'est donc pas un dictionnaire du jazz, on est plutôt dans le récit chronologique.
Oui, alors oui, c'est un récit chronologique, parfaitement construit, avec les personnages importants, bien sûr, de chaque époque. Noël Ballant ne nous laisse jamais tomber, connecte les gens, connecte les lieux, le contexte socioculturel, bien sûr, les styles et l'histoire. En commençant par le début, qui a lieu en Afrique, évidemment, et se poursuit aux États-Unis d'Amérique et bien au-delà, tout autour de la planète. Ça m'a rappelé que le premier esclave africain a débarqué en Haïti en 1504 et qu'en 1619, le premier lot d'esclaves arrive en Amérique du Nord, en Virginie.
Et c'est donc notamment par la musique que ce peuple déraciné va survivre aux pires horreurs.
Oui, entre autres choses. Et puis en passant, évidemment, par le blues et le gospel liés à la foi chrétienne. Et je vous en propose d'en écouter tout de suite parce qu'évidemment, je vous ai préparé un petit programme.
Ça n'a pas dû être facile d'ailleurs.
Ouais, alors je me suis dit, on va faire une trajectoire hyper condensée pour jalonner cette odyssée.
Ça aurait pu être Bessie Smith, mais vous avez choisi Mahalia Jackson, Ivor Malherbe, Didn't It Rain. On est ici tout près des racines du gospel. Et donc Mahalia Jackson, bien entendu, elle est citée par Noël Ballant dans son Odyssée du jazz qui vient d'être réédité. Peut-être quelques mots sur l'auteur de ce livre, Ivor.
Oui, alors Noël Ballant est français, contrebassiste et écrivain. Il est né l'année où Miles Davis a enregistré Kind of Blue.
C'est 1959.
Absolument.
D'ailleurs, Miles disait que c'était la plus belle année des années 50.
Je suis assez d'accord. Dans sa biographie, on peut lire ceci, Noël Ballant a grandi avec deux certitudes, ce qu'il veut faire plus tard, de la musique et des livres, et ce qu'il ne veut pas faire plus tard, le reste. Alors, Noël Ballant a écrit à propos de Billie Holiday, de Miles Davis, de Django Reinhardt, de Charles Trenet, une histoire du rhythm and blues aussi et du gospel, une quarantaine de romans en tout, nouvelles, essais, biographies, et son premier bouquin est intitulé « La musique adoucit les meurtres ». J'aime bien ce titre. On se rend compte à la lecture de cette Odyssée du jazz et au nombre de ses livres, traitant de musiciens et musiciennes, que l'auteur a un amour infini pour les gens qui font la musique et donnent de la profondeur à la culture qui va avec.
Alors, où est-ce que vous vous êtes attardé dans le livre, Ivor? Parce qu'il est grand, il fait 1000 pages environ.
Ah oui, 1000 pages. Mm-hmm. Un trompettiste qui est au centre de l'histoire du jazz et qui m'est cher, c'est Dizzy Gillespie. Écoutons-le un peu avant de parler de lui. Thank you.
La trompette, avec sourdine d'ailleurs, de Dizzy Gillespie ici, qui joue Burke's Works. C'est un blues de sa propre composition.
Mais oui, avec Joe Pass à la guitare, Ray Brown à la contrebasse, ami de longue date, et Mickey Rocker à la batterie.
Avec évidemment une mention de Dizzy Gillespie dans ce livre, L'Odyssée du Jazz de Noël Ballon. Alors qu'est-ce qu'il en dit de Dizzy? Du bien, j'imagine.
Alors oui, mais surtout, il réussit pour Dizzy, comme pour les autres, à rassembler les quelques faits historiques qui concernent le personnage et qui cernent le personnage aussi, quelques anecdotes quant à ses excentricités et son esprit parfois trop novateur pour son temps, qui le mèneront à réaliser sa propre révolution après, avec quelques complices, le bebop. Et juste avant, dans le livre, évidemment, Noël Ballon a ouvert les volets sur le bebop et détaille les biographies des musiciens principaux qui ont donné vie à ce mouvement, et ainsi de suite pour les autres grands chapitres du jazz.
Charlie Parker, bien entendu, en ce qui concerne le bebop. Alors, on parle de ce livre, qui pourrait d'ailleurs être un joli cadeau de Noël, on le doit à Noël. Noël Ballon, L'Odyssée du Jazz, ça vient de paraître aux presses universitaires de France.
Alors oui, cadeau, excellente idée, parce que ce soit pour des aficionados comme vous et moi, en plus vous êtes professeur d'histoire du jazz à l'EJMA, eh bien, pour quelqu'un qui écoute le jazz avec plaisir en se disant qu'il ou elle ne connaît rien, vous savez, eh ben voilà une très très bonne réponse. Et je vais être sincère, j'ai appris beaucoup de choses quand même en le lisant. Alors, peut-être un autre clin d'œil musical, allez. Vous doutez bien que le chapitre consacré à Mingus est à la hauteur.
Magnifique musique ici de Charles Mingus, le Goodbye Pork Pie Hat, qui est devenu évidemment un standard depuis sa composition. Goodbye Pork Pie Hat, accessoirement en hommage à celui qui avait ce chapeau, c'est Lester Young, le saxophoniste. Et c'est encore un autre blues, Ivor, en fait.
Bah oui, parce que j'avais
un peu dissimulé quand même.
À peine. Mm-hmm. Oui, j'avais envie par ce choix musical de souligner cet autre gros chapitre du livre dont nous parlons et aussi mentionner le fait que Noël Ballon ne rate jamais une occasion de dire les choses comme elles sont. Le racisme et la ségrégation aux États-Unis d'Amérique ont obligé une quantité d'artistes à faire autre chose que ce qu'ils souhaitaient en premier. Charles Mingus rêvait d'être violoncelliste classique jusqu'au moment où il lui a fait comprendre que ce n'était pas pour lui, qui avait la peau trop claire parfois, trop foncée d'autres fois. Heureusement, un bon jour, il entend l'orchestre de Duke Ellington à la radio.
Et là, j'ai l'impression que vous pourriez encore nous en raconter quelques heures de ce bouquin.
On n'a pas le temps. Hein.
Non, on n'a pas le temps. Encore deux minutes avec une petite musique encore. Mais...
Cela dit, c'est un super livre. Il est agréable à lire. On peut l'ouvrir n'importe où ou alors suivre l'ordonnancement chronologique de l'auteur qui nous avoue avoir dû faire des choix drastiques, évidemment. Mm-hmm. Il précise dans la préface que l'option didactique est toujours franchement avouée et respectée. Donc, 1000 pages de récits, de références musicales et un lexique riche si quelques mots vous échappent.
Ça s'appelle L'Odyssée du Jazz. C'est Noël Ballon qui signe cet ouvrage, qui vient, donc je le rappelle encore une fois, d'être réédité aux presses universitaires de France. On va se quitter en musique avec quelque chose de plus récent. J'ai rien contre les anciens morceaux, mais...
Non, certes. Alors c'est un écho. En fait, je voulais faire écho à Malia Jackson tout à l'heure, star du gospel. Je vous propose une voix qui appartient à un jeune londonien de 30 ans à peine, qu'un certain Quincy Jones a tiré vers sa lumière il y a quelques 10 ans, Jacob Collier. En plus, ça va bien avec l'ambiance des fêtes de Noël, je trouve.
Here we are, on earth together, it's you and I. God has made us fall in love, it's true. I really found someone like you.
La voix de Jacob Collier avec la voix de Jacob Collier, sans oublier la voix de Jacob Collier, c'est le procédé qui est appelé le overdub, donc il s'enregistre en mille feuilles, comme ça, dans cette reprise de Stevie Wonder, You and I. Dernière illustration musicale, Ivor, que vous avez choisi pour nous parler de cette odyssée du jazz. Merci beaucoup.
Mais pour avec grand plaisir.
Joyeuse fête à vous, on va pas se revoir avant l'année prochaine. Je vous souhaite de passer une excellente journée, pourquoi pas à l'écoute de nos programmes. Vous écoutez Espace 2, il est 9h.